Okay, thanks.
Never Better Than Light, the first session of Languages of Criticism and the Sciences of Man, Les Langages Critiques et les Sciences de l'Homme, is convened. Nous vous souhaitons bienvenue très cordial. We're certainly grateful to those of you who've come a long distance, both ideologically and geographically. The foundations of the Johns Hopkins University rest firmly on a transatlantic exchange, a transatlantic dialogue. Someone suggested almost 100 years ago that Daniel Coit Gilman, at the time he was organizing his university, was attempting in a way to say, il n'y a plus d'Atlantique. Whether he had the same difficulties that his predecessor, Louis XIV, had in executing this wish, I don't know. But clearly, there's been a dialogue at Hopkins. Hopkins has prospered in a dialogue across the Atlantic, and in fact, we feel that its future may well depend upon it. For some of the visitors today, these sessions mark a return long awaited by friends here. For others, the trip itself simply punctuates discussions, simple discussions, in some cases prolonged discussions begun at Cerisy or Wyoming or Coppé. This is a stop on the way. But the common concern, I think, which binds us all together here, however diverse our critical languages may be, is the attempt to interpret man's culture and ultimately to understand our own act of interpretation. This means, I think, a common interest in method. The sessions might well begin, and I might well end, with one last look at Hopkins' own past for an emblem. The year is 1882. The speaker is that ornament and gadfly of the university, Charles Sanders Peirce. He's speaking at the beginning of an academic year, describing a course which he hopes someday will be given at Hopkins. And his ambition is this. This, he says, is the age of methods, and the university, which is to be the exponent of the living condition of the human mind, must be the university of methods. This, I think, is both a challenge and a warning. Perhaps Johns Hopkins in 1882 was the only university, and perhaps now too, which could entertain the idea of a chair in the method of methods. However, there's a warning in this. The following year, G. Stanley Hall received his professorship, the professorship for which Peirce was in probation, and Charles Peirce's contract was terminated. This 1882, 1883, a century of which Whitehead has said that its greatest invention was the method of invention. Today, we return to some questions of method, and we hope that we can at least mark this as a fitting the activities will be just that, a point to which we can repair, but also a center which will, in many ways, bring us together in various forms of dialogue. The new director of the Humanities Center at the Johns Hopkins, Charles S. Singleton, has consented to say a few words of welcome to open the sessions. Professor Singleton.
My words will be few and merely a welcome, in no sense a keynote speech, for that is to come from my colleague on my right. Hopkins, I need hardly say, is overwhelmingly pleased by the presence here of so many colleagues and friends who have come from so far away in this country, from as far as the West Coast, as far as they could, and then from so many, speaking of centers in Europe, which, as you all see from the program, are actually the École Pratique des Hautes Études, the University of Zurich, the Collège de France, the École Fondienne de Paris, the École Normale Supérieure, and the Fonds National Belge de la Recherche Scientifique. That would seem to call for a welcome in several languages. Several languages, no doubt, will be spoken here. I'll hold to English and say that I bring greetings and regrets, first of all, from our President Eisenhower, for whom this library is named, as some of you may notice, have noticed, for as the university, as the president of a private university, especially. He had sudden problems reaching his desk today, which made it impossible for him to be here. This library is named for him, and here we are in it. I wonder if some of you have had time to look around to see that it is divided, I might say split, right down the middle. All the way down, on all the floors, you have science on the one hand, and humanities and social sciences on the other. I think engineering, no offense to colleagues here, gets in on the science side, so it's science and engineering on the one hand, and humanities and social sciences on the other. At least our classification puts social sciences and humanities together. What bridges can emerge here across that central corridor in the way of linking sciences humaines with the physical and natural sciences, we shall see. I speak to you as representing a very new institution at Hopkins, which I will not deliver any ballyhoo for here. I'd rather it would remain the mystery. It's not clear that we even have a center yet, or if we do, then where the circumference, and so forth. However, we have promoted, this is not ballyhoo, to get back to that division and through the library, we have promoted so far seminar years, which have had to do with different historical periods, and some of you may have heard of some of them. And last year, we spent the whole year on the Renaissance, where I think, when we studied humanism and science and art, always Renaissance, we had glimpses of how such a line as that represented by the central corridor on all our stacked floors came to be drawn, how it came about, how the split came. This symposium may have something to say about bridging it. Certainly, we are all extremely interested in the fact that the title is plural, and that plurality in itself, I venture to say, comes ultimately out of the Renaissance. It is not une langue critique, it's les langues critiques, and it's not une science humaine, apparently, but the plural. Most welcome, and now I yield to my esteemed colleague, Professor Gidin.
Thank you. An American author has defined our age as the age of criticism. To many of us here, more and more, it looks like the age of the symposium. My thought goes first to all those who have dedicated their talent, their time, their resources to this meeting. First, I want to thank the Ford Foundation and its representative among us, Dr. Sigmund Koch, whose generosity and understanding are beyond praise. I want to thank Dr. Eisenhower, who has encouraged and aided this enterprise in many ways. I want to thank Dr. Singleton, without whose sympathy and help nothing would have been possible. I thank the staff of this university and all our friends on the campus. I thank all those who interrupted their work to join us here. And I thank, of course, all the members of our new section on language, culture, and literature, which is publicly born with this event and which will prosper, we hope, in the future. Of all those who helped, I will name only Eugenio Donato and Richard Maxey, the chairman of the section and the chairman of this first meeting. Donato and Maxey are both responsible for much of the form and substance of what we are doing here. During the last 2 months, Richard Maxey has worked tirelessly, almost alone at times, in the face of many difficulties. As I survey this room, I feel awed at the thought that I contributed, however modestly, to the presence here of so many distinguished people from so many distant lands, intellectual as well as geographical, as Dick Maxey pointed out. And I'm somewhat comforted by the thought that very few groups such as this ever had so many good, even urgent reasons to get together as we have today. Quite a few disciplines are represented here. Our philosophical backgrounds are different. so are the methodologies in which we trust. We do not speak the same language, or worse still, we use the same words, but they do not mean the same things to all of us. Yet we have one thing in common. We do not like the distance between us. We do not like the indifference. We do not like the division of what we still have to call knowledge in a singular form, as if it were one. As we all know, in a limited number of areas and institutions, notably at the École Pratique des Hautes Études in Paris, the centrifugal tendency appears interrupted. Les sciences de l'homme, the sciences of man, is the current label for the new area of convergence, or at least of dialogue. Les sciences de l'homme cut across what we still generally call the humanities and social sciences. The very idea of sciences de l'homme is a direct challenge to this distinction. In order to engage in a fruitful dialogue, we must grasp, I believe, some of the basic assumptions in which the present dichotomies are rooted. As long as we talk in terms of bridging the gap between the so-called two cultures, we remain the prisoners of this duality. From the perspective of the science de l'homme, there is no gap to bridge, really. The sciences de l'homme have altered, for the first time, perhaps, a distinction between subject and object, which we have inherited from the 19th century. In the formulation of this methodological and philosophical change, abstractions, I believe, should be avoided, because abstractions mean nothing except to those who are already convinced. I will try to suggest the change, in a very tentative and imperfect fashion, to be sure, through metaphor and myth. If we believe, contrary to the perspective I will attempt to define, that the observer poses no more of a problem in human phenomena than he does, or rather than he formerly did, in the natural sciences, we refuse to descend, whether we know it or not, from an imaginary pedestal high above humanity, from which all truth is deployed at our feet, transparent and readily available, free from the limitations of time and space. To this almost invincible, because invisible, illusion, I find a counterpart, as I do to almost every great human situation, my friends know, in the Oedipus myth, and more specifically, in the beginning of Sophocles' tragedy. King Oedipus thinks of himself as a man unattached to the city over which he reigns, a perfect stranger to this obscure past, which he plans to investigate. Oedipus, the first Western hero of knowledge, the researcher par excellence, neglects none of the formalities and precautions which a religious or a scientific ritual demand. What more could be asked of him? If, not unlike Tiresias, we suggest to our investigator that his relationship to the object of his investigation is a little more intricate, perhaps, and a little less distant than he thinks, Oedipus, I'm afraid, will not like this advice. A very conscientious scientist, he will question our own dedication to knowledge. He will read in us a preference for the ethical and the metaphysical over the intellectual. He will suspect a propensity to the irrational and a secret desire to reintroduce what he calls the subjective element into the deadly seriousness of his objectivity. And yet, what is urged on him is not a return to a self whose abstraction and vacuity are predetermined by his own oversimplified definition of objectivity. What is urged on him is not old-fashioned introspection, or that verbal debauchery sometimes called existentialist auto-analysis. Don't we all know that Oedipus is an avid practitioner of introspection and that he receives no light from it? What Oedipus needs is to do away with both his self and his other, equally imaginary, at least in part, through an abandonment of their sterilizing interplay in the constantly reforming structure of his relationship to Laios first, then to Creon, then to Tiresias himself. If we try to attract Oedipus's attention to the ambiguous signs from which this structure may finally reveal its outline, He will certainly accuse us of a morbid preference for the vague and the esoteric over our long-cherished, clear, and distinct ideas. He will accuse us of neglecting the facts patiently gathered by him in the course of his investigation, unaware that these facts are rendered, if not totally useless, at least not immediately useful by his false assumption of absolute autonomy, an assumption which predetermines the arrangement, the découpage of all possible reality to him. The interpretation which Tiresias gives of Oedipus is really a response to the interpretation first given of Tiresias by Oedipus himself. In order to reply to Oedipus in kind, Tiresias cannot simply say, "You are such and such." Oedipus has already located that same being outside of himself, thereby implying that it is not his own. Tiresias must point out the opposition between the real being of Oedipus and Oedipus's opinion of himself. Oedipus, to Tiresias, is a man who, at all times, is what he thinks he is not, and is not what he thinks he is. Tiresias must do more than reveal this contradiction. He must put it at the center of his interpretation. In order to be effective, he must make it the core of his reply to his adversary. The words of Oedipus are far from forgotten, therefore. They are rearranged into a new structure within which they mean, ultimately, the very reverse of what Oedipus intended. Knowledge of man, knowledge of other men, that is, has become demystification, or maybe we should say demythification. Let us note at this point that the Oedipus myth is the only one which suggests, mythically perhaps, but still indisputably, his own destruction as myth. I see Tiresias as a striking symbol of the changes which have occurred in our disciplines over the last decades, an allegory of the types of interpretation which will be under scrutiny at this symposium, a cipher more enigmatic, perhaps, and less one-sided than it appears at the present. The similarity is indeed remarkable between the approach of Tiresias and his modern disciplines, notably psychoanalysis and sociology, which maintain that languages signify beyond and against the explicit and even implicit intentions of the speaker. At the other end of the epistemological ladder, the neo-positivist refused to enter into the linguistic maze which the endless debate between Oedipus and Tiresias is about to create. We can well understand their misgivings, even if we deplore their defection. Interpretation in depth will lead the sociologist to socio-economic causes, and it will lead the psychoanalyst to sexual causes. But this difference looks less significant in the light of contemporary research than the identical structure of interpretation. The structure of interpretation is that of the science de l'homme, to a large extent, and it was very well defined by Michel Foucault in Les Mots et les Choses. When I point to Tiresias as a symbol of this approach, I'm fully aware that the implications are quite different from anything Michel Foucault had intended. The sciences de l'homme are the redoubling of interpretation upon itself. They necessarily include in their significant structures, and they contradict, since they reinterpreted, a first and more spontaneous interpretation more closely related to the original phenomenon. Thus, Claude Lévi-Strauss tells us that the real structure of a cultural phenomenon cannot coincide with a spontaneous account given by the subjects themselves. Thus, the application of structural linguistics to phenomena which are extra-linguistic, at least in a narrow sense, necessarily empties these of their original value, destroying the grip on being itself which they appeared to have within their original context. Thus, we have a literary criticism nowadays which seeks to define not the unity of the work and the organization consciously designed by the author, or at least acceptable to him, but a more comprehensive structure in which the intentions of this author and the generally accepted interpretation of his audiences are viewed not as absolute yardsticks or impassable barriers beyond which the interpreter should not go, but as no more than elements in a total picture. And these elements can always be reinterpreted according to the requirements of the totalization. At this point, the humanists are concerned. They have been concerned perhaps for quite a while. Do not these interpretations destroy whatever faith we still have in the great creations of our humanistic past? Do they not hasten the advent of a nihilism which it is our duty to fight? Before answering this question, we must be sure we are not mistaking words for realities. The pieties of commencement speeches should not delude us into thinking that nihilism is something we are free to do battle with, because it affects other people only. Thus, thinking himself free of the ills that befall his city, Oedipus wants freely to commit himself, and he offers his help to the plague-ridden fellows about him. But Oedipus will soon be disabused. The only way, perhaps, to stop the progress of nihilism is to recognize its presence and its significance within us. If we fear that the great works of Western civilization are threatened as they are submitted to a more searching and ruthless method of analysis, we unwittingly reveal the depth of our own nihilism. This fear, we are now ready to see, is unfounded. If one point should emerge from the preceding and very fumbling remarks, this point is really not mine. It belongs to the myth, and it belongs to Sophocles. I do not know if humanism is represented in the myth. I do not know if humanism is represented in Sophocles, but I sense the presence there of something truly essential to the existence and to the maintenance of Western civilization. As I try to manipulate my Oedipus metaphor, and as it manipulates me, I realize how inadequate I am to the task of suggesting the infinite perspectives which it opens to us. Far from undermining the relevance of the myth and of Greek tragedy, as Freud himself with all his genius still unfortunately did by calling it a dream, and Freud saw infinitely more in Oedipus, I believe, than all rationalists combined, beginning with Aristotle. The present orientation of research confirms, I believe, the power of myth and the relevance of early Greek thought to our own experience. We can begin to unveil in the myth more than a coherent structure, a real matrix of diachronically ordered structures whose suggestiveness as metaphors of our individual and collective predicament, or should I say as structural models, appears almost unlimited. I'm personally convinced that truly great works of art, literature, and thought stem, like Oedipus's own reinterpretation of the past, from a man's ability to undertake and carry out an erratically destructive reinterpretation of his former intellectual and spiritual structures. Unlike lesser works, perhaps, these masterpieces will pass the test of the most radical structural interpretation because they partake to the same essence, to a higher degree, no doubt, than our most searching analysis. If the myth and Sophocles can accompany and illustrate the present changes in modes of interpretation, if the myth still understands us as well, if not better than Freud understood it, we have not deviated from the main road of Western thought. We have only moved ahead an inch or two. Apollo's oracle still controls our destiny. The real dangers of the present lie elsewhere, and it is the myth once more which should be consulted to ascertain their nature. Our Tiresias symbol seems to settle once and for all the question of the truth. Truth is on the side of Tiresias and of that interpretation in depth which turns the table on a former interpreter. Are we so sure that this is the end of the road? The truth of Tiresias in Oedipus remains a stillborn child, a dead letter which cannot get through to the hero or to anyone else. The blind prophet may take such pride in having uncovered the illusions of his fellow men. The demystificator may be so satisfied with his demystification that he himself may fall ultimately into an illusion almost identical as that of his adversary. At this point, everything Oedipus says of Tiresias becomes as true as Tiresias' interpretation of Oedipus. Reciprocity is perfect. Reciprocity in the myth is always perfect. Tiresias, losing sight of the fact that no god really speaks through him, forgetting that his truth, partial and limited, bears the imprint of its true origin, which is the heated debates and battles and work of men, as well as the embarkation of converging desires, Tiresias will think he incarnates the truth and he will abandon himself to oracular vaticinations. He too will believe that all riddles are solved, that all pitfalls are in the past. That is why Tiresias too can be dull. Having read the signs of others, at least up to a point, he neglects his own, which are beckoning him more urgently, more desperately than ever. This is the failure of Tiresias, and it might be our own. It is this failure which drags Tiresias into a painful, sterile, interminable debate with Oedipus. This, of course, should not be a model for us in the discussions to come. Perhaps it is not fitting even to mention such a deplorable precedent. But in matters intellectual as well as in matters financial, danger and profit always run together. Whenever a real profit is in sight, and it is in sight, we hope, in the days ahead, there is a risk to be run. We will run this risk in order to reach the true intellectual challenge, which is our common joy.
Thank you very much, Professor Girard. I think that our oracle may remind us that we ourselves are in danger of convening a symposium of blind prophets. But I think in the past, as now, Professor Girard has never resisted interrogation, has never resisted questions. However, the procedure today suggests that the most logical place for questions is after the central paper by Professor Morazet. Consequently, we may be returning precisely to both the motto on the approach, know thyself, and the oracle itself. I think it's appropriate at this first session of the symposium that the paper be read by Professor Charles Morazet, who was a vital force and founder of an aspect of French intellectual life which in some respects has animated the spirit of the symposium here today, and that is the sixième section, the sixth section of the Hautes Études. Professor Morazet has already demonstrated to those of us who were able to attend his seminars in the last few days the extraordinary versatility which the role of a social historian alive to questions of literary creation, to the evolution of genre, bears. I mention in passing only the two books which, in a sense, perhaps best illustrate the range of his interest, the Trois Essais sur la Culture and culmination of the study of the bourgeois, Les Bourgeois Conquérants, which is familiar to some of us in English as The Rise of the Middle Classes. Professor Morazet's paper, L'Invention Littéraire, is again a beginning, a hypothesis, and it should also represent for those of us who are concerned with the relationship of the notion of hypothesis to creation, an extraordinarily good place to begin the sessions today. It's certainly a pleasure to introduce Professor Charles Morazet of the École Pratique des Hautes Études, who will read a paper, L'Invention Littéraire. I might add in the interval that there will be coffee at the end of the session, practical matter intrudes.
Monsieur le directeur, Monsieur le président, je vous suis très reconnaissant de nous avoir et de m'avoir invité ici à un colloque, comme nous aimerions bien pouvoir en conduire en France même. Je ne dirais pas que je suis particulièrement enchanté d'avoir à ouvrir un débat qui probablement va être si riche et aussi si difficile que vraisemblablement les mots que je vais dire ici vont paraître, pour commencer, fort inférieurs au niveau intellectuel de ce qui va se dire et beaucoup moins animants ou animés que les discussions qui vont suivre. Ça ne sera pas la première fois que des Français seront appelés à quitter leur pays pour mieux se connaître et quelquefois mieux se comprendre. Mais si j'ai quelque inquiétude en ouvrant ce débat, je dois dire que je voudrais vous exprimer à vous-même, monsieur le directeur, monsieur le président, et à vous tous, mesdames et messieurs, une profonde reconnaissance pour la manière dont vous acceptez que nous nous exprimions et que je m'exprime ici en français. Oh, certainement, le français que je vais utiliser n'est pas un modèle. Et vous avez des professeurs qui feront beaucoup mieux, qui vous indiqueront beaucoup mieux comment bien parler. Mais il vaut encore mieux que j'égratigne un peu la langue française plutôt que to become a bloody murder of the English tongue. Et comme les problèmes qui nous rassemblent ici doivent être situés, placés, m'a-t-on dit, et je le ferai de mon mieux en ce qui me concerne pour les placer à ce degré, à un niveau assez élevé, le plus élevé possible, il est bien certain que, ayant déjà tant de mal à le faire en français, je serai incapable de le faire dans une autre langue. Je vais donc essayer de vous parler de l'invention littéraire, ou plutôt, car je ne suis pas un spécialiste ni du langage ni de la littérature, vous parler des rapports de l'invention littéraire avec l'invention en général. Un papier, un texte, vous a été distribué qui est l'exacte reproduction de celui que j'avais livré au département, c'est-à-dire qu'il a des fautes, mais les fautes ne sont pas de ceux qui ont bien voulu multiplier et rhéographier ce papier, il était, je m'en aperçois, dans mon propre texte et dans ma propre dactylographie. Très peu de fautes d'ailleurs, et qui, j'espère, n'empêcheront pas de comprendre un sens que j'ai voulu aussi clair que possible, mais qui est évidemment sujet à contestation. En relisant, au moment où je le donnais ici, ce papier, je me suis aperçu qu'on y parlait relativement peu de littérature et de beaucoup d'autres choses. Alors, je m'en excuse, en pensant que peut-être vous ne trouverez pas mauvais que le problème de l'invention littéraire et de toutes les discussions qui auront lieu ici soit replacé dans le plus large contexte, et puisqu'après tout vous avez parlé non seulement du langage critique, mais de sa place dans les sciences de l'homme, c'est dans cette perspective que les généralisations, même si parfois elles vous paraissent banales, que je vous présente, trouvent leur place. Voilà comment je me suis trouvé amené à parler d'abord dans mon texte et à vous parler maintenant de l'invention mathématique. Probablement aussi parce que, au moment où, depuis des années, comme d'autres d'ailleurs, pas seul dans ce domaine, j'ai essayé d'explorer ce qu'était l'invention. Il m'a semblé que les auteurs qui en parlaient de la façon la plus claire étaient précisément des mathématiciens. Ce n'est pas qu'ils soient plus doués que les autres en matière d'introspection, mais simplement je crois qu'en mathématiques, l'invention se présente dans un système assez simple pour qu'il soit plus aisément reconnaissable. Alors, j'évoque d'abord cette fameuse conférence que fit Henri Poincaré il y a une soixantaine d'années lorsqu'on les psychologues parisiens lui demandèrent d'exposer ce qu'était, d'après son expérience personnelle, l'invention. Or, ce qu'il y dit, et qu'on a 100 fois cité depuis lors, c'est que la solution d'un problème n'intervient pas forcément à la conclusion d'un effort lucide et conscient. Mais qu'au contraire, et pour les problèmes vraiment difficiles, l'ayant amené à proposer des formules nouvelles et pour ainsi dire créatrices, la solution avait surgi dans le moment où il l'attendait le moins, dans des périodes où il faisait tout autre chose que de chercher le problème. Le rôle de ce qu'il appela alors l'inconscient est plus singulier encore, puisque, nous dit Henri Poincaré, il lui est arrivé, sans savoir pourquoi, de s'attaquer à un élément de problème ou à une difficulté qui paraissait sans rapport avec le problème général qui encombrait sa vie, et comme pour se délasser. Et après des jours, des semaines, il s'est aperçu que ce qu'il avait pensé être un phénomène contingent se trouvait au contraire précisément être un élément du processus de découverte qui devait l'amener à la solution finale. L'importance du travail de l'inconscient dans l'invention mathématique a été soulignée ainsi par Poincaré, a été repris par Adamard, qui précisément dans ce pays, à New York, a utilisé une partie de son activité pendant la guerre, où il avait trouvé ici un accueil, pour étendre cette enquête commencée par Poincaré. Mais elle se renoue, ou plutôt elle éclaire, d'autres réflexions qui avaient longtemps paru incompréhensibles, comme on en trouve dans Newton, comme on la trouve peut-être plus précisément encore dans Gauss, qui à propos de ses distinctions arithmétiques, disait, je ne sais pas comment je découvre, je sais que je découvre, je ne sais pas comment je découvre, et quand j'y réfléchis, je pense que ce ne peut être que par un don de Dieu, car les choses me viennent subitement, sans que je n'aie rien fait apparemment pour les mériter. Des philosophes de l'invention ont repris le problème sous toutes sortes de manières, et on a pu trouver chez des musiciens comme Chopin ou Mozart, ou chez des hommes de lettres comme Valéry, des mots qui paraissaient indiquer que le processus inconscient avait dans d'autres domaines que les mathématiques la même importance que celle qu'indiquait Poincaré. Mais tenons-nous-en à cet aveu général, ample, grossier. Le travail du cerveau peut se poursuit hors des périodes d'invention. Si nous voulons maintenant commenter cette affirmation ou cette constatation que nous tiendrons provisoirement pour un postulat valable, on peut se reporter à certaines études faites par les physiologistes qui, pendant longtemps et notamment à la suite de Nicole, ont voulu ajuster cette notion d'invention à celle de hasard, comme si des hasards avaient fait rejoindre des notions très diverses, très différentes, appartenant par exemple, dans le cas des fonctions fuchsiennes, qui était le sujet principal des réflexions de Poincaré, à des domaines des mathématiques qui n'avaient jusqu'alors jamais été rapprochés et qui se trouvaient confrontés par lui pour la première fois dans son invention. Donc un phénomène de hasard rapprocherait les idées diverses pour en faire une idée nouvelle. À vrai dire, tout ce que nous savons des processus de l'invention contredit cette réflexion de Nicole. Ce n'est pas un hasard pur et général qui permet de créer l'invention. Et aucune invention ne peut relever du calcul des probabilités. En effet, si Poincaré invente, ou si Chopin trouve le thème d'une mélodie, ou si Mozart avoue avoir découvert un quatuor, alors qu'il était en route sur un carrosse, en route en Italie, dans un carrosse. Ce n'est pas si spontanément qu'il apparaît, c'est à la suite, après une interruption sans doute, mais à la suite d'un effort de préparation préalable. Effort de préparation qui, d'ailleurs, se fait en plusieurs étapes. Il faut d'abord être familier avec les mathématiques. Et puis, à l'intérieur de cette familiarité, il faut s'être familiarisé avec le problème particulier, ou plus exactement avec les domaines particuliers qui sont nécessaires à l'élucidation du problème en cause. Il y a donc toute une série d'étages dans une préparation préalable. Mais on peut aller un peu au-delà dans cet ordre de réflexion. Et en analysant de près les témoignages qui nous sont donnés par toute une série de savants, de prêtres, d'inventeurs, de musique ou de mécanique, on peut en gros reconnaître trois phases dans le processus d'invention. Pour élucider chacune de ces phases, il se trouve que, comme d'ailleurs le suggérait Adamard, mathématicien français auquel je faisais allusion tout à l'heure, le latin est assez commode. La première phase correspondrait à ce que veut dire le latin informare, informer. Il s'agit effectivement, pour l'auteur éventuel de l'invention, pour le créateur, de se familiariser, comme je l'indiquais tout à l'heure, avec l'utilisation de signes, de méthodes, de se pénétrer de connaissances et de préciser dans l'ensemble de ces connaissances générales un ou plusieurs domaines particuliers convenables. Or, à ce stade, il faut insister à quel point importe tous les apports collectifs de la société. Ce n'est pas un esprit seul qui est capable d'ainsi se former ou de s'informer. C'est la société tout entière qui offre à l'inventeur d'abord tous les livres qu'il a eu l'occasion de lire. Il se trouve que Gauss était le fils d'un jardinier, que Poincaré appartenait au contraire à une famille bien plus bourgeoise, mais l'un et l'autre avait pu prendre connaissance d'un certain nombre de textes qui étaient des produits plus ou moins récents, en général relativement récents de la société. De plus, comme tous les procédés de raisonnement ne se situent en fonction, en liaison avec toutes sortes d'actes de la vie quotidienne, j'évoquerai, sans plus y insister ici, que le cadre dans lequel on vit, le cadre de civilisation dans lequel on vit, présente pour aider l'inventaire une importance exceptionnelle. Cadre au sens le plus large du terme. Il est bien certain que Newton n'eût pas pensé à la gravitation si de son temps on ne s'était pas familiarisé avec l'idée d'un globe suspendu dans l'espace. Et ce n'est probablement pas sans relation avec le goût que les architectes prennent alors dans la construction de coupoles, coupole comme celle du Panthéon où sera précisément installé le pendule de Foucault qui révélera et qui permettra de mesurer avec une précision alors non atteinte la rotondité, la vitesse de la rotondité du mouvement de la Terre. Donc, l'inventeur à ce moment-là se trouve situé dans un groupe, il en recueille les produits, non seulement les produits directement utiles à son invention, mais tout ce qui peut favoriser, orienter sa méditation dans le sens d'une découverte à faire. Second moment, c'est celui où il faut mettre en marche le cerveau, ne pas seulement laisser l'abandonner à la contemplation d'une œuvre d'art, de civilisation, et de lier à la lecture passive d'ouvrages, mais où le cerveau doit être mis en état d'activité. Plusieurs de nos auteurs littéraires contemporains utilisent pour cela des excitants. Poincaré lui-même avoue qu'il se servait de café très fort. Mais tout ceci, ce ne sont que de petits adjuvants agissant sur les systèmes nerveux, mais étant de peu de choses à côté de l'extrême concentration d'attention qui fait qu'effectivement on met en marche un mécanisme. Puisque je faisais appel tout à l'heure à la langue latine, je le ferai également cette fois-ci, en évoquant ici le mot de cogitare, de coagitare. Il s'agit de faire agiter ensemble toute une série de notions qu'on va choisir dans des domaines qu'on pense aussi proches que possible du but à atteindre. Mais enfin, qu'on agite et qu'on a rassemblé sans savoir où on veut aller, puisque évidemment l'invention n'est pas encore faite. Il se produit alors un travail intérieur, guidé par la conscience, quelquefois clair à la conscience, mais, et c'est cela qu'il faut retenir des confessions que j'évoquais au début, se poursuit même quand l'attention se relâche, pendant les périodes de sommeil, pendant les périodes de vacances, et disent beaucoup des inventeurs qui ont répondu aux enquêtes faites sur ce point, se poursuit quelquefois d'autant mieux que l'attention le laisse se développer librement et n'essaie pas de l'engager dans une voie trop particulière et préconçue qui empêcherait la nouveauté de se produire. Évidemment, le matériau qui est mis en œuvre ainsi, Poincaré parlait d'atomes agités, le matériau qui est mis en œuvre ainsi est précisément emprunté au social, aux productions sociales dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, à un certain moment de cette activité de cogitation, comme nous disons quelquefois dans un français qui n'est pas reconnu, ou de méditation, à un certain moment, effectivement, une lumière se produit. C'est, nous dit-on, nous dit aussi bien Chopin que Valéry que Poincaré, une illumination brusque. Illumination brusque qui nous oblige à insister sur le caractère neurologique déjà impliqué par le fait qu'en dehors de l'attention, le processus s'est trouvé continué et engagé, sinon engagé, du moins continué. Illumination brusque qui donne un sentiment, tout le monde en est d'accord, de merveilleuse libération, d'une énorme poésie, d'un jaillissement de bonheur intérieur qui probablement correspond, pour parler d'une façon très concrète et sans que nous faisions appel encore à des expériences de microélectrodes qui ne sont pas encore très développées dans le sein de la physiologie, mais enfin correspond probablement, en tout cas on a l'impression, à une sorte de meilleure organisation de nos cellules, de nos collections cérébrales, et qui fait qu'une masse de cellules qui s'est trouvée bloquée par un problème s'en trouve brusquement libérée parce qu'une meilleure organisation de ce qu'on va appeler par la suite des calculs ou des formules ou des vecteurs de pensée correspond à une meilleure économie de notre travail cérébral, libérant une énergie qui avait été bloquée dans un certain domaine du cerveau et donnant alors cette satisfaction de joie qui est précisément le phénomène qui sans doute réveille l'attention, par exemple celle de Poincaré au moment où il laisse promener aux environs de Caen ou montant sur le marchepied d'un autobus, tout d'un coup il a la joie de trouver la solution de son problème. Mais si une solution à un problème mathématique comme poétique se trouve ainsi découverte, c'est une combinaison possible entre beaucoup d'autres combinaisons possibles qui avaient été essayées de millions de manières dans le travail de la cogitation. Si bien qu'il y a là un phénomène ou une expérience de choix auquel correspond également un mot latin, intelligere, je choisis. Au milieu d'un ensemble de possibles, je choisis, et à ce propos, Valéry, qui en étudiant la poésie a essayé de reprendre ce problème de l'invention, souligne que quand il trouve, ou plus exactement, quand il est en train à la fois de chercher et de trouver ce qui va résoudre un problème politique, il sent en lui deux personnes. Il se dédouble. Et déjà, sans qu'il ait eu ses préoccupations, d'essayer d'expliquer la nature interne de l'invention, Renan, je crois que c'est au début de ses dialogues philosophiques, disait, quand je réfléchis, j'ai l'impression d'être l'auditeur d'un dialogue entre les deux lobes de mon cerveau. Cette figure anatomique ne serait plus acceptée aujourd'hui par les physiologistes, mais le dédoublement correspond à cet effort, d'une part, d'agitation de toutes sortes de propositions, de positions et de propositions, et du choix d'une conjonction particulière entre beaucoup d'autres qui pu se présenter. Mais il ne faut pas s'imaginer, il ne faut pas se représenter l'opération de la cogitation ou de la méditation et l'opération de l'intellection comme deux opérations rigoureusement distinctes. L'une ayant caractérisant une phase, précisément définie dans la durée, et l'autre, une autre phase, tout à fait distincte, dans une durée postérieure. En réalité, c'est à tout moment que l'intellection intervient, soit consciemment, soit inconsciemment, dans la cogitation, pour enlever de la machine au travail ce qui lui est inutile, pour y ajouter ce qui lui est nécessaire, comme les expériences de mathématiques, d'arithmétique de Poincaré se trouvaient nécessaires à la solution de fonctions fuxiennes, qui lui paraissaient pourtant être de caractère purement à l'origine géométrique. Il y a donc, à tout instant du processus, une dualité à la fois d'agitation de formules possibles et de choix qui ne sont encore que provisoires, mais actifs, et qui vont ensuite à s'épanouir dans l'intellection parfaite. Bien entendu, il faut prendre bien garde que la grande satisfaction qu'on éprouve à avoir trouvé une solution n'est pas elle seule le garant de l'authenticité de cette solution. Adama, avec lequel j'ai souvent eu l'occasion de discuter de ces problèmes, citait le cas d'un nombre considérable d'élèves qui venait le trouver en lui disant « Ah, mais j'ai trouvé une formule merveilleuse pour résoudre cette forme d'intégrale. » Ils étaient tellement enchantés qu'ils ne doutaient pas d'avoir raison. Mais une épreuve très précise faite sur ce qu'ils avaient trouvé montrait que ils s'étaient tout simplement trompés. Ils avaient oublié un élément essentiel. Et nous connaissons tous, soit comme écrivains nous-mêmes, soit comme professeurs ayant à juger d'étudiants, parlons des seconds si vous voulez, ils ont moins de facilité pour se défendre, qui ont la certitude d'avoir écrit une copie magnifique et qui ont eu le sentiment d'avoir parfaitement réussi et qui sont d'ailleurs eux-mêmes très surpris quand on leur montre après qu'il s'agissait bien là d'une des illuminations brusques dont parlent nos auteurs, mais non pas d'une découverte de l'authenticité. Il n'y a authenticité que lorsque le processus d'intellection a été mené avec tous les contrôles désirables, c'est-à-dire dans le cas de la mathématique, puisque c'est de là que nous sommes partis parce que c'est le plus simple, dans le cas de la mathématique, que vraiment toutes les connaissances mathématiques dont doit, non c'est pas dont peut, mais dont doit disposer l'inventeur qui va vérifier cette connaissance, toutes ces connaissances, tout ce dépôt, toute cette méthode, toute cette richesse d'informations appliquée à ce qui s'est produit dans l'illumination et dans la cogitation, juge que c'est bon. Si c'est un très bon mathématicien, dont toute la puissance d'intellection a agi pendant tout le cours du processus de la cogitation, eh bien, je dirais que la vérification est une pure formalité. Si c'est pas, si au contraire, un mathématicien qui ne dispose pas de toute cette masse collective d'informations, alors c'est un mauvais travail qui se trouve ainsi produit. Et d'ailleurs, au-delà de la vérification de l'homme seul, il y a ensuite la vérification, ce qui se fait par les autres mathématiciens, par vous autres, quand je parle. Il y a donc par la suite un effort qui donne son véritable sens à l'intellection, qui est un contrôle collectif par la collectivité et au moyen de tous les produits de même ordre élaborée par la collectivité. Si bien que si nous essayons de faire sa part exacte à la coagitation ou à la cogitation entre une information qui vient tout entière du social et une intellection qui n'est valable que si elle met en œuvre tout ce qu'il y a de convenant dans le social, nous voyons que le phénomène propre de la cogitation tient dans une espèce de surface sans épaisseur, ou de ligne sans épaisseur, ou même de point sans dimension, essentiel sans doute, mais enfin qui réduit considérablement la part de l'élément propre ou de l'élément personnel dans l'invention. Est-ce à dire que l'auteur doit être tenu pour ne pas exister? Bien sûr que non. S'il n'y avait pas d'homme, il n'y aurait pas d'invention. S'il n'y avait pas d'humanité, il n'y aurait pas d'invention. Et c'est bien dans le cerveau d'un auteur que le phénomène se produit. Mais le phénomène se produit dans le cerveau d'un auteur dans la mesure où l'auteur fait quoi? D'abord, il s'est mis dans une certaine situation. Il s'est mis dans un certain état. Il a disposé de ses cellules cérébrales qui, là, lui appartiennent bien, en utilisant son corps, ses yeux, tout cela lui appartenant bien. Il s'est situé dans un certain environnement social, comme dans un certain univers de signes, un univers d'informations. Et de même, s'est-il situé dans cet univers pour pouvoir être intelligent, c'est-à-dire choisir à bon droit la vraie solution parmi celles qui se proposent. Et en cela, il est évidemment, l'auteur, une importance essentielle. Je dirais qu'il a une importance essentielle également sur un second point sur lequel j'insisterai beaucoup plus longuement. L'auteur fournit une certaine énergie. Énergie qui peut-être ne se mesure que de façon quantitative. C'est là un grand problème dont je ne pense pas qu'il doive être débattu ici, mais qui, à mon avis, fera l'objet des principales préoccupations des physiologistes du cerveau et des psychophysiologues du cerveau dans les mois et les années qui vont venir. Il s'agit probablement d'une énergie simplement quantitative à ce degré. Mais enfin, il s'agit d'une véritable énergie. Et c'est précisément dans la manière dont l'énergie se fixe sur des idées, sur des signes, sur des images, pour les amener à créer de nouvelles idées, de nouveaux signes, de nouvelles images, c'est sur cette énergie que je voudrais insister. Non point sur sa nature. Je ne sais pas si on la connaît, en tout cas j'en ignore tout. Mais sur la manière dont elle traite les problèmes qu'elle anime. En effet, la différence entre l'invention mathématique et l'invention littéraire est évident, en ce sens que lorsque le mathématicien travaille, il travaille sur des signes. On dit en général, malheureusement, nos collègues mathématiciens parlent de symboles. À mon avis, ils ont tort. Enfin, c'est fait, on parle de symboles mathématiques. Mais ils parlent sur des signes qui ne veulent rien dire pour quelqu'un qui n'est pas initié à la science mathématique. Vous pouvez regarder, à moins que certains d'entre vous soient de grands mathématiciens, vous pouvez ouvrir un livre de mathématiques, il ne signifie rien, il ne vous dit rien, il ne parle pas, il ne dit rien. Ce sont des signes complètement dépourvus d'énergie propre. À la différence des signes qui nous sont présentés, par exemple, dans un ouvrage reproduisant des peintures, et où, sans que nous soyons particulièrement informés, ce qui est représenté dans une reproduction dingue ou de Michel-Ange, immédiatement nous frappe. Le signe mathématique est donc un signe qui par lui-même est dépourvu d'énergie. Par conséquent, le travail d'information en mathématiques consiste à recharger d'énergie un signe, à procéder à ce que depuis Pavlov, on sait être un conditionnement. On a ces signes qui ne veulent rien dire, ces mots qui par eux-mêmes ne frappent pas l'imagination, ne frappent pas nos organismes profonds, ne frappent pas nos émotions, ne provoquent ni aucune modification dans nos glandes endocrines, ni dans la constitution du sang, dans la circulation des humeurs. Mais on les recharge jusqu'à ce que tous ces signes étranges prennent une signification, prennent force, Et c'est après cette recharge artificielle d'une énergie avec des signes complètement neutres que s'opère le processus. Et puis à la fin du processus, on retraduit en signes ce qui s'est produit et on laisse ces signes à leur neutralité jusqu'à ce que quelqu'un les recharge et ainsi de suite. Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, lorsque les signes ne sont pas de nature mathématique, mais appartiennent à l'univers esthétique, ils sont, eux, directement chargés d'émotions. C'est-à-dire que sans même que nous ayons à faire un effort particulier, d'autant mieux si nous le faisons, mais sans même que nous ayons à faire un effort particulier, ces signes mettent en marche en nous un processus énergétique de caractère émotif. Ça nous plaît ou ça nous déplaît, ça nous inspire un désir ou un dégoût. Mais enfin, le signe directement peint, sculpté ou dit, dans la mesure où étant dit, il porte une image qui nous rappelle quelque chose, qui frappe indirectement nos sens ou qui éveille une sensation, eh bien, là, nous sommes mis en marche, notre processus créateur d'énergie, orientateur d'énergie, est mis en marche par le signe. Et je dirais que la poésie ou l'esthétique, dans son action la plus puissante, est justement celle qui traite les signes, ou plus exactement, cette fois, on peut parler de symboles, je dirais, avec le maximum de force. C'est quand, comme malgré nous, après avoir lu les trois premiers mots d'un poème, nous continuons de lire la suite, ou comme après avoir aperçu la vague lueur qui émane d'un tableau, nous voulons le regarder, le contempler plus longtemps. C'est à partir du moment où une certaine énergie se développe avec une très grande force d'une œuvre d'art ou d'une expérience esthétique qui nous entraîne, que nous nous trouvons devant un grand phénomène, une grande poésie ou une grande esthétique. Ce travail esthétique s'opère sur des symboles, et je voudrais dire tout de suite qu'il n'est pas sans rapport avec ce signe désincarné de la mathématique que j'évoquais tout à l'heure. Précisément parce qu'il en est l'opposé. Il en est l'opposé et par conséquent le complément nécessaire. Car dans ce travail que j'appellerais en gros des poétiques, quand des signes sont offerts, des symboles nous sont offerts, et qui nous sont offerts moins isolément que par une sorte de confrontation les uns avec les autres, de choc les uns sur les autres, eh bien, ils s'usent, ils s'épuisent. Et quand, après un long processus historique, des signes ou des symboles se sont trouvés ici, entièrement épuisés, alors ils deviennent ces articulations pures, ces mots qui ne veulent rien dire, parce que, et qui pourtant portent ce qu'il y a de plus utile, la signification qui est la plus utile à l'invention mathématique, on recharge d'émotions dans l'invention scientifique. Il y a donc, dans l'effort de la poétique, une double recherche, ou plutôt un double travail, un travail qui va éroder un certain nombre de signes. Et comme tous les signes ne peuvent pas être érodés, qu'on ne peut pas vivre dans un univers aux signes rendus à l'état d'articulation pure, l'effort poétique de la peinture et des arts recharge d'autres signes. Il se trouve qu'en étudiant ces problèmes de l'économie linguistique, de l'économie des mots ou des lettres de l'alphabet, ou de l'économie du langage, il se trouve qu'on a beaucoup parlé, enfin que Saussure et après lui tous ses imitateurs ont souvent emprunté l'exemple du mot bœuf. Eh bien, prenons le bœuf. Il est bien certain que le mot bœuf peut se prêter à toutes sortes de charges émotives, ou plus exactement. Dans les temples de l'Égypte, il était chargé d'une émotivité surpuissante. Beaucoup des mots qui sont devenus pour nous des usuels, et qui pour un classificateur de biologie n'est plus qu'un signe presque aussi désincarné qu'un signe de mathématiques, a dû être à l'origine, a dû être à quelques moments de son histoire, au moment où il sortait tout neuf d'une imagination pleine de symbolisme, une porteur d'une charge qui a invité les fidèles, non pas à l'effort d'abstraction, mais à l'effort d'adoration. Et ainsi, la poésie est à la fois ce qui, dans sa signification, plutôt dans son action la plus ultime, la poésie est ce qui choisit parmi tous les signes qu'elle traite, ou plus exactement, qui fait l'expérience parmi tous les signes qu'elle traite, de signes qui sont les plus aptes à l'articulation pure de la logique dite parfaite, en réalité elle ne l'est pas, de la logique dite parfaite, et la poésie et l'esthétique sera également ce qui, de période et période, lorsqu'un langage se trouve épuisé, lorsqu'une signification esthétique se trouve épuisée, cherche à la recharger d'émotions pour que le processus de l'invention puisse se poursuivre. Évidemment, dans cette recharge d'émotions, les images jouent un très grand rôle. Et je ne vais en parler que très brièvement, en indiquant tout de même ceci. Les mots ne valent quelquefois par leur seul dessin, c'est surtout vrai des écritures pictographiques. Elles peuvent même d'une certaine manière valoir par leur seul dessin, comme certains poètes français l'ont essayé, en jouant avec la disposition des lignes et des mots et des syllabes. Mais enfin, les mots valent surtout par les images dont ils sont porteurs. Et là, pour évoquer très rapidement un des problèmes les plus difficiles de ceux de la compréhension littéraire, comme de la compréhension d'ailleurs scientifique, je pourrais dire que ces images elles-mêmes, ces articulations d'images, valent comme des représentations d'actes, que les actes agissent sur les choses, que les images ne le font pas, que les mots agissent sur les images, et que nous nous retrouvons ainsi dans une structure que je ne fais qu'évoquer, qui est complexe. Les mots agissent par les images sur les hommes qui agissent sur les choses, les mots agissent par les images sur soi-même qui agissent sur les choses. Nous sommes dans une espèce de structure que l'on pourrait appeler simplement triangulaire pour rendre hommage à certaines réflexions de notre ami Girard, mais qui, je crois, serait plus complète si nous les appelons des structures de type tétraédrique, à quatre éléments. Mais peu importe. L'essentiel est de mesurer que le travail littéraire, lorsqu'il ne se fait pas sur des signes qui soient des articulations pures, mais se fait sur des mots porteurs d'images et cherche à établir entre des images le même genre d'interrelation et d'interconnexion que le scientifique, le mathématicien essaie d'établir sur des signes, eux, dépourvus d'émotions. Et que l'invention littéraire vise tantôt à décharger des signes, tantôt à recharger des signes de symbolique. Bien entendu, dans tous ces cas, le social intervient puissamment. Et l'invention mathématique, l'invention poétique, l'invention esthétique, l'invention littéraire, se situe bien entendu dans un cadre plus vaste encore, que je voudrais simplement évoquer, c'est l'univers tout entier de l'action. Quand le président de la République des États-Unis d'Amérique veut lancer une politique, il prononce des mots. Ou quand le président de la République française veut essayer d'engager une politique, il prononce des mots. Nous prononçons les hommes d'action comme les hommes d'affaires s'engagent avec des mots. Mais il y a une grande différence entre l'univers de l'action et l'univers, disons, des œuvres, dans la mesure où, lorsqu'un homme d'État, ou un homme d'affaires, un homme d'action, veut réussir une entreprise, il la commence par des mots, mais il doit attendre des jours, des semaines, des mois qui sont consacrés à établir, souvent d'ailleurs grâce à des mots, des interrelations. Et quand ces interrelations ont réuni dans des conditions concevables un assez grand nombre d'êtres, un assez grand nombre d'intérêts, ou bien éventuellement un assez grand nombre de nations, alors il s'est donné la puissance nécessaire pour faire aboutir un événement. Eh bien, cet événement qui se trouve ainsi conduit n'est pas toujours, et je dirais même, il est même rarement celui qu'a voulu le héros qui l'a engagé, car à mesure qu'il cherchait à se donner les moyens d'un événement, de réussir un événement, il modifiait son propos pour pouvoir rassembler autour de lui tous ceux qui étaient nécessaires au succès de cet événement. La même chose se produit, mais d'une façon purement abstraite, dans cet effort assez orienté, mais non pas trop orienté de l'invention mathématique, qui est aussi, à sa manière, un événement. Et la même chose se produit entre le signe pur de la mathématique et l'acte pur, largement social de l'action dans le domaine de l'œuvre esthétique et plus précisément de l'œuvre littéraire. Même phénomène, même façon de créer un événement. Mais les mots de la littérature, les images qu'ils évoquent, sont beaucoup moins lourds, déjà Catherine II le disait à Diderot, à manœuvrer, que les ensembles humains. Ce qu'il y a de plus léger, c'est probablement le signe mathématique. Mais de toute manière, même les mots dont nous disons en littérature, les images dont nous disons en littérature, sont beaucoup moins lourds à manœuvrer que les composantes d'un événement, qui sont les soldats d'une armée ou les électeurs d'un pays, beaucoup moins lourds à manœuvrer. Ce qui ne veut pas dire qu'ils soient d'un caractère moins social. Se dit simplement qu'à la différence de l'action, dont l'événement n'est achevé non pas dans ses premiers propos et dans ses premiers mots, mais lorsqu'un large contrôle du réel l'aura suffisamment modifié pour l'inscrire dans l'histoire, l'œuvre, quand elle est écrite, existe d'un coup tout entière. Quand elle n'a pas besoin de l'appui du public pour exister. Ce que le public apporte, c'est un jugement qui peut être erroné sur l'instant, qui quelquefois devra attendre, comme pour les œuvres de Stendhal, un demi-siècle, pour se trouver juste. Mais enfin, une communication doit s'établir entre l'œuvre et le public, et à ce moment-là, c'est le sentiment qu'on en a qui indique la qualité de l'œuvre. Autrement dit, on retrouverait dans les processus sociaux de l'action politique, comme de l'histoire littéraire, comme du jugement mathématique, ces différentes phases dont je vous parlais tout à l'heure, de l'information, de la cogitation et de l'intellection. Les mêmes. Et ce sont ces trois grandes phases propres à l'évolution tout entière qui donnent, qui conditionnent, qui donnent sa force, sa couleur, sa saveur au travail cérébral qui, lui, est bien individuel, qui, lui, est bien personnel, mais qui lui donne tout son contenu et sa suprême justification. Dans l'ordre de l'action, dans l'ordre de la science, on se trouve en présence soit d'une épuration de l'effort, soit au contraire d'une matérialisation de l'effort. Entre ces deux pôles se situe l'œuvre d'art. La phrase réussie est peut-être, après tout, puisque nous avons à plusieurs reprises rappelé que l'homme est aussi une physiologie, la plus haute production du génie de l'homme. Elle se soutient, nous le savons, par sa logique. Mais cette logique, articulation toute abstraite, ne saurait satisfaire aux besoins que tout notre goût de vivre, notre saveur de vivre, notre espérance de vivre nous inculpe. Si donc le syllogisme réduit autant qu'il se peut dans l'œuvre exacte, la part de l'articulation, il n'est par lui-même rien, il n'est pas à vivre. Et c'est au contraire une certaine façon
pour les hommes de se placer au milieu de la société. Se placer au milieu de la société de façon telle que cette société elle-même se place dans l'univers des choses qui lui est offert par la nature ou qu'elle crée. C'est la manière dont, en réduction dans l'œuvre littéraire, le créateur ou son héros, qui représente soit lui-même, soit ce qui le contredit, se situe par rapport aussi aux autres hommes et aux autres choses, qui crée ces articulations qui donnent à l'événement politique, scientifique ou littéraire sa masse. L'articulation est ce qui la rend compréhensible, mais la masse, c'est ce qui lui donne son poids, sa force d'impact, sa puissance, bref, ce qu'on appelle, ce qu'on dirait un mot vague, mais qui pour nous évoque beaucoup, sa beauté. Et ainsi, si l'on veut résumer d'un coup tout ce que représente d'approximation nécessaire, non certaine, non trop volontaire au départ, l'invention, et tout ce qu'elle représente d'intégrer dans de larges structures l'objet inventé à l'issue du processus, nous pourrons dire dans une phrase qui, j'espère, ne vous paraîtra pas trop ambitieuse, que l'œuvre belle se situe au carrefour où l'accompli se dégage des possibles et où la certitude est offerte comme une récompense des risques.